à Pékin donc. Le carnage se poursuit sans doute en ce moment même encore. Le dernier bilan de sources hospitalières fait état de 1400 morts et de plus de 10 000 blessés. La place Tiananmen, transformée toute la nuit en champ de bataille, est maintenant occupée par les militaires.
Ans d'histoire. Il y a 20 ans, dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, à Pékin, les blindés de trois corps d'armée recevaient l'ordre d'écraser la révolte qui, depuis 7 semaines, faisait vaciller le régime communiste chinois. À 2h30 du matin, l'armée ouvrait le feu sur les milliers de manifestants qui occupaient les 50 hectares de l'immense place de la paix céleste, la place Tiananmen, à l'endroit même où, 40 ans plus tôt, Mao Zedong avait proclamé la naissance de la République populaire de Chine. Mais ce 4 juin, l'armée n'était plus là pour faire triompher une révolution. Elle était entrée dans Pékin pour écraser une révolte qui avait commencé quelques semaines plus tôt. Le 22 avril 1989, à l'occasion des funérailles d'un ancien chef du Parti communiste chinois, le réformateur Hu Yaobang, les étudiants de Pékin étaient venus sur la place Tiananmen pour réclamer la liberté d'expression, l'abolition de la censure et la démocratie. Ils allaient y rester 6 semaines. C'était le début des plus grandes manifestations spontanées qu'ait jamais connues le régime communiste chinois.
La première grande victoire des étudiants chinois. Bravant les menaces du gouvernement et les 8000 policiers, 200 000 personnes ont occupé la grande place Tiananmen de Pékin ce matin pendant les funérailles de l'ancien secrétaire général du parti, Hu Yaobang. Il chante l'international, il crie « Abat la corruption, abat la bureaucratie, vive le dialogue et la démocratie ». Pas d'intervention policière, pas d'incident. Quelques dizaines de milliers d'étudiants qui, pour la première fois, se sont constitués en mouvement organisé, élections de représentants, services d'ordre et plateformes politiques.
Le patriotisme n'est pas un crime. Nous exigeons la liberté d'expression et l'abolition de la censure. Où Yaobang est toujours vivant.
Marie Haussmann, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit avec Noël Mamère un livre qui vient d'être réédité et actualisé chez Jean-Claude Gassevitch, Chine, on ne bâillonne pas la lumière, un livre qui rappelle ce qui s'est produit sur la place Tiananmen il y a 20 ans, la répression de ce qu'on a appelé le printemps de Pékin, une révolte étudiante qui a fait vaciller le régime communiste, ce qui peut surprendre quand on entend les cris, les chants et chanter l'international des étudiants sur la place Tiananmen. Ils acclament le nom d'un ancien dirigeant du parti communiste chinois. Ce sont d'ailleurs ces obsèques qui ont déclenché les manifestations de la place Tiananmen, Marie Haussmann.
Oui, effectivement, c'est souvent comme ça que les manifestations commencent en Chine. En 1976, il y avait eu des prémices du même genre. Il y avait aussi une petite affaire Tiananmen après la mort du Premier ministre Zhou Enlai. Souvent, les manifestants utilisent la mort d'un ancien dirigeant qu'ils considèrent comme plus modéré ou comme plus protecteur de la population contre le dirigeant en place qui apparaît comme plus menaçant, plus dictateur. Donc le fait que Zhou Enlai soit mort avant Mao, ça avait plongé la population dans le désarroi. Et de la même façon, le fait que Hu Yaobang, qui était à juste titre considéré comme un vrai réformiste, quelqu'un qui voulait vraiment mettre en place des réformes politiques, donner plus de place à la liberté d'expression, liberté de la presse, soit décédé alors que Deng Xiaoping était toujours bien vivant et au pouvoir, ça a suscité ce même déclic.
C'est plus finalement une réforme dans le cadre d'un régime communiste qu'une révolution qu'attendent ces étudiants. C'est au fond un peu ce que est en train de faire au même moment, la même année, Gorbatchev en URSS.
Tout à fait. Et de même, Gorbatchev, je ne crois pas, n'avait pas d'intention révolutionnaire. Zhao Ziyang, qui était alors au pouvoir, était aussi un réformiste. Et lui aussi pensait qu'il fallait assouplir le cadre du système politique chinois afin de donner un peu plus de place au droit et, disons, un peu plus de discipline au parti. Zhao Ziyang critiquait violemment la corruption du parti et des dirigeants.
Là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui a favorisé cette révolte étudiante, Marie Haussmann, c'est la division au sein des dirigeants chinois, avec un Deng Xiaoping très conservateur, lui qui a lancé de très grandes réformes économiques qui ont assuré une grande prospérité à la Chine à partir de 1978, mais qui refuse en revanche toute réforme politique face à Wu Yaobang, qui est mort justement peu de temps avant les manifestations de la passée semaine, et son successeur à la tête du Parti communiste, qui est Zhao Ziyang.
Oui, quoique là, on voit bien que la notion de conservateur en Chine est très très complexe, parce que ceux qui étaient définis comme conservateurs étaient ceux qui s'opposaient aux réformes économiques de Deng Xiaoping. À ce moment-là, Deng Xiaoping apparaissait comme le grand réformateur qui allait faire venir le capitalisme en Chine. Ce qu'il a fait, effectivement, quand même. Hein, faire triompher le capitalisme dans un pays communiste, c'est pas très conservateur. Mais par rapport à la structure politique, il a lancé un système qui perdure aujourd'hui, c'est-à-dire tout sur l'économique et la dictature politique reste intacte. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé.
Alors, une dictature politique qui est néanmoins paralysée devant cette révolte étudiante qui a duré 6 semaines, pendant lesquelles ils ont occupé la place Tiananmen et ont organisé une grève de la faim. Georges Bortoli, envoyé spécial d'Antenne 2 en Chine, le 16 mai 1989.
Ils tiennent, les grévistes de la faim. Ils tiennent, mais c'est dur. Depuis samedi matin, rien qu'un peu d'eau dans l'estomac, et sur eux, le vent et la poussière de la place Tiananmen, la plus grande place du monde, la plus vaste tribune que le monde ait connue pour une revendication de dignité, de liberté. Jusqu'à quand tiendront-ils? Autrement dit, qui des étudiants ou du gouvernement gagnera cette épreuve tacitement engagée? En fait, la détermination semble bien du côté des étudiants.
Je m'appelle Shai Ling, je suis commandant en chef de la place Tiananmen. Nous mobiliserons les Chinois du monde entier pour combattre la loi martiale. La loi martiale ne triomphera pas en 10 jours, ni en 1 an, ni en 1 siècle. Ceux qui ont perdu le cœur du peuple doivent périr. Renversons le gouvernement légal de Li Peng.
Ce qui est frappant, Marie Holzmann, quand on se rappelle des images, parce que c'était filmé devant des caméras occidentales, tout ça, des images de ce qui s'est passé sur la place Tiananmen, c'est la jeunesse des étudiants qui ont participé à ces manifestations.
C'est vrai, hein, quand on pense qu'à l'époque, Chai Ling, Wang Kaixi, Wang Dan, les 3 leaders de la place, avaient entre 20 et 22 ans. Donc on comprend aussi leur vocabulaire qui est un peu romantique. Elle dit « Nous ne céderons pas la place, les dirigeants qui nous résistent pourront résister pendant 100 ans, jamais nous n'arrêterons le combat, etc. » Et après, on a beaucoup reproché à Chai Ling de dire « Il faut que le sang coule, c'est parce que le sang coulera sur la place que notre mouvement prendra toute son ampleur. » Donc elle avait ce vocabulaire qui était finalement un peu innocent, elle n'avait jamais vu le sang couler, elle. Mais en même temps, elle avait tout de suite dit « Il faut que les dirigeants gardent leur vie sauve » et qu'ils puissent s'enfuir à l'étranger pour poursuivre le combat.
Ce sont des manifestations étudiantes, en tout cas au début, ce qui montre à quel point, d'ailleurs, elles sont spontanées. Il n'y a pas eu derrière tout ça une espèce de main occulte étrangère qui aurait poussé les Chinois à se soulever contre le régime, comme d'ailleurs Deng Xiaoping l'affirmait.
Régime le dit tout le temps. Ceci dit, les mains noires, comme il disait, c'était plutôt des anciens professeurs ou des professeurs d'un certain âge, comme Fang Lizhi, par exemple, dont les discours avaient vraiment enflammé les jeunes depuis 1986. Il avait fait des discours à Hefei, puis à Pékin. Et ces discours ont certainement beaucoup contribué à pousser les jeunes étudiants à réclamer la démocratie. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'après, ce n'est pas seulement les étudiants qui viennent sur la place. Ce sont les ouvriers, les infirmières, les postiers et finalement les policiers et même des militaires qui viennent protester contre la corruption ambiante. Et c'est là qu'on voit bien que c'est un mouvement réformiste et pas un mouvement révolutionnaire.
Alors un mouvement quand même qui a duré longtemps et devant lequel le régime semble paralysé. Alors d'abord, il y a une chose qui explique sa passivité, c'est qu'il y avait la visite de Gorbatchev qui était prévue depuis longtemps et qui était attendue entre le 15 et le 17 mai à Pékin. Ça, évidemment, ça empêchait, bien entendu, les autorités chinoises d'écraser ce soulèvement.
C'est aussi ce qui explique la présence de tant de journalistes sur la place. C'était un voyage absolument historique. C'était la première rencontre à Pékin de ces deux grands dirigeants, Gorbatchev et Deng Xiaoping, et rien ne devait troubler la fête. Or, les étudiants sur la place ont empêché Deng Xiaoping d'organiser correctement la fête, puisqu'il n'a pas pu entrer par la porte Tiananmen et qu'il a dû prendre une porte de côté pour recevoir son hôte. Ça, c'était une grande humiliation pour le dirigeant.
Étudiant qui acclame le nom de Gorbatchev, étudiant qui dresse aussi une statue ressemblant à la statue de la liberté sur la place.
Ça, c'est plus tard, c'est à la fin du mois de mai, effectivement, quand le mouvement commence à non pas à perdre son souffle, mais à sentir le danger, il dresse cette statue de la liberté pour montrer que à la fois, ils sont chinois, mais qu'ils s'inspirent des valeurs universelles des droits de l'homme.
Donc à la fin du mois de mai, et jusqu'à ce que le 3 juin, le chef du gouvernement chinois décide d'envoyer l'armée pour faire évacuer la place Tiananmen.
Le premier ministre Li Peng a annoncé l'entrée en vigueur de la loi martiale. L'armée populaire fait route vers Pékin. Assassin!
Son père et moi avons attendu à la porte de l'université toute la nuit. Sur le coup de 6 heures du matin, un de ses camarades de classe est arrivé et nous a dit qu'aux environs de 11 heures du soir, il avait reçu une balle et qu'il avait perdu beaucoup de sang. Il ne savait pas dans quel hôpital on avait emmené mon fils. Je savais que je ne le reverrais plus jamais vivant. Et finalement, c'est arrivé. J'ai perdu mon fils bien-aimé.
Et c'était la mère d'un des étudiants tué place Tiananmen dans la nuit du 3 au 4 juin. Est-ce qu'on sait exactement le nombre de victimes cette nuit-là sur la place Tiananmen?
Oui, c'était la voix de Madame Ding Zilin qui est le symbole des maires de la place Tiananmen. C'est elle qui a organisé un collectif des maires justement pour essayer d'empêcher que ces morts restent anonymes. Et donc, elle a tenté à partir de 1993 de collecter la liste des morts de la place Tiananmen. Et ce qui est très frappant, c'est qu'elle a assez rapidement trouvé 160 noms de morts. Autrement dit, à peu près 160 familles se sont manifestées à elle, essentiellement des gens du voisinage, d'autres parents qui habitaient dans des universités et dont leurs enfants étudiants étaient décédés. Mais en 20 ans, après, elle a peut-être encore récolté 30 ou 40 noms, c'est tout. Donc elle est arrivée peut-être à peu près à 200 noms, alors qu'on est à peu près certain que le chiffre oscille entre 1500 et 2000 et que les autorités ont longtemps dit que... D'abord, ils ont dit qu'il n'y a pas eu de mort sur la place Tiananmen. Après, ils ont dit qu'il y en avait peut-être 300. Dernièrement, il y a un journaliste de l'agence Nouvelle qui a dit qu'il y en avait 769. Mais vous voyez, 20 ans après, on ne peut toujours pas chiffrer exactement le nombre des morts.
Alors, des morts en plus, enfin une répression qui se produit devant les caméras occidentales qui étaient présentes depuis la visite de Gorbatchev. C'est quand même un risque énorme que prend Deng Xiaoping, car c'est lui qui a pris la décision d'écraser cette révolte, Marie Holtzmann.
Oui, mais Deng Xiaoping a toujours eu un très grand mépris pour les médias étrangers. Il faut bien voir qu'il y avait eu un premier printemps de Pékin en 1979, qu'on avait arrêté le leader, et que durant toute cette décennie, Deng Xiaoping à plusieurs reprises a dit « Nous avons emprisonné Wei Jingsheng, et alors ?» Autrement dit, oui, il y a des mouvements de défense des droits de l'homme qui demandent sa libération, on ne le libère pas, et qu'est-ce que ça change?
Deng Xiaoping, d'ailleurs, qui n'hésite pas non seulement à réprimer ces manifestations, mais également il fallait les discréditer, ce qu'il disait le 9 juin, nous n'avions pas affaire seulement à des gens ordinaires, mais à une clique contre-révolutionnaire et à une masse de déchets sociaux.
Oui, mais ça reflète aussi le vocabulaire du Parti communiste chinois qui a toujours besoin de cibles. On désigne toujours une poignée de mains noires ou bien une poignée de contre-révolutionnaires. Et aujourd'hui, regardez, on continue, on désigne Sarkozy comme cible. Hein. C'est lui qui apparaît comme le leader du séparatisme puisqu'il reçoit le Dalai Lama. Donc cette logique paranoïaque est une logique qui permet au pouvoir de rester en place aussi.
Donc discréditer le mouvement étudiant, le décapiter aussi par la répression qui commençait aussitôt après l'évacuation de la place Tiananmen par l'armée.
Donc, Ici, Radio Beijing.
Les autorités centrales ont écrasé rapidement ces émeutes contre-révolutionnaires, défendant ainsi la grande République populaire de Chine et les acquis de la réforme et de l'ouverture sur l'extérieur. Tout cela correspond à l'aspiration du peuple chinois tout entier et à ses intérêts fondamentaux.
Tué en public d'une balle dans la nuque, Xu Guoming, Qi Renwu et Huan Xuerong, tous âgés d'une trentaine d'années, sont les premières victimes de la vague de répression qui s'est abattue dans tout le pays depuis les événements de Pékin. Des morts pour l'exemple, il y en aura d'autres. Le Premier ministre Li Peng a annoncé que la répression allait continuer et que les contre-révolutionnaires seraient traités sans pitié.
La répression a continué, bien sûr, assez longtemps après les événements de la place Tiananmen, Marie Elsman.
On peut dire qu'elle continue toujours puisqu'il reste encore des prisonniers gardés en prison jusqu'à ce jour.
Il y a une image dont on se souviendra toujours, c'est celle de ce Chinois qui s'est retrouvé tout seul devant des chars place Tiananmen et des chars qui s'écartent.
Oui, c'est un Chinois dont on n'a jamais connu l'identité, mais qu'on a décidé d'appeler Wang Weilin. Peut-être qu'il s'agit bien de Wang Weilin, mais c'est un peu une image fausse du mouvement, puisque c'est une image pacifique. Les chars s'écartent de lui pour ne pas rouler sur lui. C'est aussi une image qui date du 5 juin, c'est-à-dire au surlendemain du massacre. Pendant le 3 et le 4 juin, les chars ont roulé directement sur les gens, et il y a aussi beaucoup d'images atroces qui montrent des gens aux jambes coupées, des jeunes déchiquetés. Et donc cette image qui est plutôt raisonnable, où on voit le conducteur du char qui se détourne pour éviter le jeune homme, donne une image assez fausse des événements.
Est-ce que ce n'est pas l'histoire d'un échec au fond, Marie Elsman? Votre livre s'intitule « Chine, on ne bâillonne pas la lumière ». Et pourtant on l'a bâillonnée et elle reste encore bâillonnée 20 ans après.
Ça montre la force de la dictature chinoise qu'il ne faut pas sous-estimer.
Un régime qui tue, qui tire sur sa jeunesse, n'a pas d'avenir, disait François Mitterrand. Or, il existe encore.
Le régime existe encore, mais il faut voir si sur le long terme, son avenir est vraiment assuré. Est-ce que les conséquences des réformes économiques sans contre-pouvoir, sans possibilité pour la population de s'exprimer et d'éviter, par exemple, la pollution de l'environnement ou des détournements de fonds, des corruptions, etc. Est-ce que ce régime est vraiment appelé à une grande longévité? La question se pose encore.
Mais y a-t-il encore une opposition politique?
Il y a une opposition, mais elle a pris une forme qui n'est pas politique. Maintenant, c'est la défense des droits citoyens. Elle est tenue par une poignée de gens, il faut bien le dire, ils sont extrêmement minoritaires. Ce sont des avocats, des journalistes, quelques ONG, et ils tentent encore de faire régner une forme de justice en Chine.
Merci Marie Elsman. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Chine, on ne bâillonne pas la lumière », coécrit avec Noël Mamère et qui vient d'être réédité chez Jean-Claude Gavzevitch. À lire aussi « La Chine » en deux volumes de Jean-Luc Domnac et Philippe Richer, publié en Point Seuil. Je signale également qu'en hommage aux victimes de la répression de 1989, un rassemblement aura lieu ce soir de 19h à 22h, place du Trocadéro à Paris, ainsi qu'une soirée de débat demain, jeudi 4 juin, de 19h à minuit, à la Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud à Paris, dans le 11e arrondissement. Vous avez pu entendre des extraits des documentaires suivants, La Porte de la Paix Céleste de Richard Gordon et Karma Hinton, et Tiananmen, Mémoire Interdite de Charlie Buffet, diffusée sur France 5. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Pascal Baldassari et Cédric Lalanne. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans notre émission, à l'occasion des élections européennes du 7 juin, une histoire du Parlement européen.